Hello et bienvenue sur le podcast Tige, où je te partage mes réflexions sur la société et son impact sur nous. Tu y trouveras également des interviews avec des femmes inspirantes qui osent prendre leur place dans ce monde. Retrouve-moi sur Instagram @tigebyamel et en attendant, je te laisse avec l'épisode du jour. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui où je vais vous partager mon ressenti après ce mois de Ramadan, ce mois de jeûne. Alors, il s'est plutôt bien passé et j'en ai retiré plein de leçons que j'aimerais là vous partager. Avant de commencer, j'ai envie de vous faire une petite annonce. Donc, je réouvre les portes du programme Tige. Donc, c'est mon programme d'accompagnement sur 3 mois pour vous aider dans votre gestion émotionnelle, mentale et vous relier encore plus à Dieu dans le cadre d'un projet que vous voulez lancer ou juste, en fait, mieux vivre votre vie. Parce qu'en fait, quand on apprend à gérer ses émotions et son mental et qu'on se lie encore plus à Dieu, enfin je veux dire c'est game changer dans la vie. C'est le truc le plus important et qui va nous permettre de mieux vivre cette vie quoi. Et donc il y aura une masterclass début mai. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Tige Academy, T-I-J, pour avoir les informations ou vous inscrire à la newsletter, il y aura le lien dans les notes de l'épisode afin de vous tenir informé de la masterclass et de l'ouverture pour cette prochaine promo. Voilà. Bon, revenons à nos moutons. Donc, comme je vous disais, j'ai passé un bon mois de Ramadan. Évidemment, pendant ces 3 jours, enfin ces 3 jours, qu'est-ce que je raconte? Ces 30 jours, il y a eu des moments assez difficiles. Les deux majeurs, c'était 2-3 jours avant mes règles. Là, vraiment, je ressentais énormément de fatigue et c'était beaucoup plus difficile de gérer le jeûne, la difficulté physique. Et le deuxième moment, c'était les 2-3 derniers jours avant la fin où là, t'as juste hâte de recommencer à manger normalement et de reprendre une vie normale, quoi. Même si c'était cool, hein, parce que vraiment, pendant 30 jours de jeûne, si tu fais bien le jeûne, hein, c'est-à-dire que moi, déjà, j'ai arrêté la musique, j'ai arrêté le sucre, j'ai essayé de manger super simplement et tout le temps la même chose pour pas épuiser mon système digestif. Et franchement, j'avais une clarté mentale incroyable. Et donc, les 10 derniers jours, où là, t'es encore plus proche de Dieu, eh ben, j'ai vraiment pu en profiter et encore plus me connecter à Dieu. C'est vrai que tu te rends compte à quel point tes démons sont dans ton intestin, quoi. C'est un truc de dingue. Et que c'est tous ces désirs, toutes ces croyances à l'intérieur de toi, toute cette fausse identité, ces fausses missions que tu t'es attribuées, en fait, elles sont en train de t'empêcher de te connecter au divin, quoi. Et donc, faire un jeûne, que ce soit le jeûne du Ramadan ou des jeûnes comme vous le souhaitez, quoi, et ben c'est très bénéfique pour amener de la clarté mentale et se détacher, en fait, de tout l'extérieur et de créer une relation verticale encore plus puissante. Il faut savoir que le jeûne de 30 jours, comme ça, c'est une épreuve. C'est pas un truc, genre, pour qui fait sa race, quoi. Voilà, c'est un test dans lequel Dieu nous met collectivement, toute la communauté musulmane, afin de comprendre ce qu'est une épreuve et de mieux gérer les vraies épreuves qui vont venir plus tard. Donc, c'est pas un moment à célébrer. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup qui font plein d'iftars, qui font de grandes tables et tout, comme si c'était Noël. Ok, mais en vrai, le vrai but, c'est de se mettre dans une difficulté choisie parce que ça va nous faciliter plus tard quand on aura une vraie difficulté comme un décès, la perte d'argent, la perte d'un travail, un changement de situation difficile, un accident, voilà. Ça, en fait, ça nous entraîne à gérer ces épreuves quand elles vont arriver, parce qu'elles vont arriver forcément. Du coup, pour moi, comme je m'étais préparée pour ce jeûne, hein, moi j'ai commencé à jeûner depuis octobre à peu près, et surtout les 2 derniers mois, je jeûnais 2 fois par semaine. Donc j'étais plus ou moins entraînée, je savais ce dont j'avais besoin en termes de nourriture et tout, et j'étais prête pour me mettre dans un inconfort encore plus grand. Et vraiment le but pour moi là, c'était d'accepter totalement que j'allais être dans l'inconfort. Voilà, j'accepte l'épreuve. Je ne la remets pas en question. Dieu me met dans cette épreuve-là parce qu'il a une intelligence beaucoup plus grande que la mienne, genre incomparable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà ça a été une vraie leçon hein, de me dire, Amel, remets-toi à ta place. T'es juste un petit être humain. Dieu, il sait ce qu'il fait. Et s'il te met dans une situation ou s'il t'enlève des personnes ou des choses que tu avais, que tu pensais acquises, c'est pour ton bien. Il t'aime et s'il te fait ça, c'est vraiment pour t'entraîner parce qu'il sait ce qui va venir et il a besoin que tu sois encore plus forte pour être encore mieux et ressortir gagnante. Parce que c'est vraiment la promesse de Dieu, hein, c'est que tu ressors gagnante à la fin de cette épreuve. Du coup, j'avais préparé toute une liste des activités que j'allais faire afin d'utiliser mon temps. Et d'éviter de trop m'ennuyer. Donc j'avais plein de cours, j'ai créé du contenu, j'ai posté des épisodes de podcast toutes les semaines, enfin, j'ai fait plein de vidéos, j'ai écrit. Voilà, je suis partie aussi me balader 2-3 heures par jour. Enfin voilà, j'ai vraiment rempli mon agenda de plein de choses. Et le but, c'était vraiment d'accepter encore une fois la situation, l'épreuve, mais ensuite d'éviter de mettre mon focus sur la faim, sur l'inconfort physique, sur tout ce qui me manquait, et d'orienter mon focus sur, ok, la situation est comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux utiliser ce temps à bon escient, comme ça, à la fin, je vais me dire, waouh, t'as fait des trucs de ouf, tu t'es dépassé. Et c'est exactement ce que j'ai fait, je me suis reconnectée encore plus à Dieu, j'ai passé plus de temps dans la prière. J'ai prié pendant les nuits, enfin voilà, je me suis vraiment dépassée pour encore plus cultiver ma relation à Dieu, j'ai regardé beaucoup de contenu, j'ai écouté des podcasts spirituels pour comprendre Dieu, pour développer ma définition de Dieu, voilà, donc j'ai essayé de détourner mon focus des choses négatives et vraiment d'aller vers des choses positives qui vraiment me nourrissaient. Un truc qui est intéressant avec tout type de jeûne, vraiment, c'est que tu te rends compte de ce qui te draine de ton énergie et ce qui alimente encore plus ton corps et ton énergie. C'est dingue. Parce qu'en fait, je pense que les gens qui vivent très mal leur jeûne, donc le manque de nourriture, c'est qu'ils ne sont pas nourris par d'autres choses. Peut-être que les relations dans lesquelles ils sont les drainent, peut-être que les activités qu'ils font leur enlèvent encore plus d'énergie. Enfin voilà, en fait, je pense que tu te rends compte avec le jeûne que tu n'es pas seulement nourri par la nourriture, mais également par toutes les activités que tu fais, tout ce que tu regardes. Tout ce que tu écoutes, tout ce que tu fais, voilà, tout ça en fait, ça te nourrit et ça te donne la force ou non de faire les choses. Moi, j'avais rempli mon planning de pas mal de choses et à aucun moment je me suis sentie genre vraiment fatiguée à la fin de la journée, quoi. Genre, j'en pouvais plus. Genre, je filmais des vidéos et tout et j'étais tellement surexcitée à la fin que j'étais OK pour repartir me balader à la fin de la journée encore. Un truc évidemment super important, c'est que quand tu jeûnes et que tu es dans l'inconfort physique, ça mime en fait l'inconfort mental et émotionnel qu'on va vivre quand on va vouloir prendre une décision difficile, genre quitter un partenaire, quitter un travail, ou commencer un projet, commencer une chaîne YouTube, un podcast, peu importe. En fait, c'est exactement le même processus. Et avec le jeûne, en fait, tu es poussé à faire des choses même si tu es dans l'inconfort. Je vous le dis tout le temps, how you do one thing is how you do everything. Donc, comment tu fais une chose, c'est comment tu fais tout. Et tout ce que tu enseignes à ton corps, en fait, tu l'enseignes à ton subconscient. Si tu enseignes à ton corps qu'il doit faire quelque chose même si il est dans l'inconfort, Donc, c'est-à-dire jeûner, mais quand même continuer à faire des choses dans sa journée. Parce qu'en islam, c'est interdit d'une certaine manière de dormir pendant la journée quand on jeûne. C'est pas autorisé. Donc, en fait, quand tu fais quelque chose enfin, qui t'amène de l'inconfort, c'est exactement ça le but du jeûne. En gros, le jeûne, il te fait faire des choses même quand tu es dans l'inconfort. Donc, ça te permet de, quand tu vas lancer ton projet, eh ben, d'accepter l'inconfort dans lequel tu vas être. Le truc, c'est qu'avec le jeûne, Dieu, il nous fait comprendre à nous, dans notre corps, au niveau cellulaire, au niveau de notre inconscient, que ça va se finir, que cette période d'épreuve, elle va arriver à sa fin. C'est-à-dire que si tu lances ton projet et que tu es dans l'inconfort pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que ça ne marche pas encore et tout, sache qu'au bout d'un moment, Dieu, il va t'amener la réussite. En fait, c'est évident parce que le mois du jeûne de Ramadan se finit par l'Aïd al-Fitr. Donc, c'est une grande fête, en fait. C'est une grande célébration. Et il est interdit de jeûner pendant l'Aïd. On peut jeûner après 6 jours en plus, mais le jour de l'Aïd, c'est une journée de célébration. Et en gros, ça mime, ça, c'est une métaphore pour nous dire à nous, êtres humains, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on apprend, nous, les êtres humains, via notre corps, que la récompense, elle va arriver et il suffit d'être patient. Mais Dieu, évidemment, il ne nous dit pas juste d'être patient et genre de souffrir pendant 30 jours et de ne rien faire. Non, 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 il veut qu'on fasse des choses, il veut qu'on le prie, il veut qu'on se regroupe avec des amis, il veut qu'on fasse un maximum de tâches, d'activités qui le servent lui. C'est-à-dire, soit on le mentionne, donc du dhikr, le mantra islamique, soit en fait qu'on fasse sa mission de vie. C'est-à-dire, par exemple, si ma mission de vie c'est de communiquer et de partager comme là je partage, enfin, ça fait partie de ma mission, et bien ça c'est une manière de worship, de prier Dieu en fait, de lui prouver ma reconnaissance. Donc quand je fais un podcast, quand je poste des trucs sur Instagram qui peuvent aider les gens et les soulager d'une souffrance, et ben ça c'est une bonne action et c'est exactement ce que Dieu veut qu'on fasse pendant le mois de Ramadan. En fait, Dieu, il nous enseigne une leçon très importante, c'est que même dans les épreuves, on peut trouver les ressources pour continuer et pour réussir. Et ça va dépendre évidemment de nous et de notre focus. Si on décide de se focus sur ce qui nous manque ou se focus sur ce qu'on a et la gratitude. Et au final, notre célébration, comment on se sent à la fin de ce Ramadan, va totalement dépendre de tout ce qu'on a fait pendant ces 30 jours. Soit tu as passé ton temps à te plaindre constamment, à regarder BFM, à t'entourer des mauvaises personnes et tu arrives à la fin de ce Ramadan complètement épuisé et voilà, tu passes à autre chose rapidement. Soit vraiment tu as fait en sorte de te dépasser, d'essayer en fait avec toutes les ressources que tu as, avec les personnes que tu décides de côtoyer ou pas, et ben en fait ça va te permettre de te dire, enfin d'arriver à la fin et d'avoir une encore plus belle surprise et d'être en mode bon bah ben voilà je me suis réinventée, je me suis régénérée et je vais pouvoir encore plus croquer la vie à pleines dents et attaquer mes objectifs. Pendant ce mois de Ramadan et notamment les 10 derniers jours, je suis allée à la mosquée et ça a été également une expérience très révélatrice. Donc c'était la première fois que j'y allais à cette période-là, en tout cas. Et enfin, franchement, j'ai compris mais tellement de choses. C'est dingue. Je me suis dit mais pourquoi j'y vais pas plus souvent quoi. Donc déjà, c'était incroyable comme le fait de. En fait, juste la position de la prière, elle révèle énormément de choses. Donc déjà, quand on va prier dans une mosquée, et peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais les femmes et les hommes, enfin les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, on doit tout en fait avoir les épaules collées l'une à l'autre. En fait, en islam, on dit que sinon le diable y passe entre vous deux. Donc ça, c'est vraiment l'individualisme. Donc En islam, à la mosquée, on est obligé de se tenir les unes à côté des autres, de vraiment d'être soudées. J'ai beaucoup aimé ça, c'est-à-dire que tu vas pas à la mosquée, il y en a une de ce côté-là, l'autre à l'opposé. Non, ça n'existe pas, même si on ne se connaît pas en fait, devant Dieu, on est toutes ensemble. Et on regarde tout en bas. Donc en gros, on est tout à égalité. On a un seul créateur. Et quand on sera devant le créateur, on ne pourra pas lui dire, voilà, j'ai pas fait ça à cause de ma voisine, à cause de mon père, à cause de Macron, à cause du gouvernement global. Enfin voilà, on ne pourra pas sortir toutes ces excuses-là. En fait, tous les êtres humains, toutes les créatures que Dieu a créées, on sera toutes au même niveau et on va toutes regarder par terre sa propre route en fait. On a tous notre propre route, c'est-à-dire que ma voisine, elle ne peut pas prier pour moi. Donc elle ne peut pas faire ma mission de vie. Il n'y a personne qui va faire ma mission de vie. Donc il n'y a pas de compétition. La compétition, c'est totalement illusoire. En fait, dans la position de la prière, il y a énormément d'humilité. Même au moment où on se prosterne, on accepte encore une fois qu'on ne connaît rien du tout, que Dieu sait beaucoup mieux que nous ce dont on a besoin. Et parfois, on se dit, mais en fait, si je contrôle pas, eh ben, Dieu, il va pas me donner ce dont j'ai besoin, ce que je veux. Mais en fait, Dieu, il sait beaucoup mieux que nous ce dont on a besoin. Et parfois, on pense qu'on a besoin de quelque chose. Alors qu'en fait, pas du tout, que cette chose-là, elle peut nous amener de la destruction et du malheur. Et vraiment, vraiment la prière, c'est une métaphore de la vie, c'est-à-dire que tu es là à regarder par terre, donc tu sais pas trop où tu vas, mais tu vas faire le premier pas. Et tu as également le droit de relâcher ton stress quand tu te prosternes, demander à Dieu la guidance, tu as le droit de ne pas savoir, tu as le droit de prendre des pauses, tu as le droit d'être fatigué, mais ensuite toujours, ben, tu te relèves et tu continues et tu es avec des gens. Enfin voilà, si tu as bien nourri une communauté, si tu as bien créé des relations saines avec les gens, et ben tu as des gens qui peuvent te soutenir en fait dans ta prière, mais jamais personne ne fera ta mission pour toi. Une autre posture aussi qu'on a fait pendant les prières et qui était assez longue, c'était de lever les mains comme si on était des mendiants en fait. Et c'est vraiment ça, on est juste des mendiants, mais des mendiants de Dieu. C'est Dieu qui donne. Et du coup, c'est vraiment à la fois se remettre dans l'humilité, c'est-à-dire que on contrôle rien du tout et que c'est Dieu qui détient tout. Et également une grande libération où tu te dis, mais en fait, il n'y a aucune autre personne qui détient notre bonheur, notre richesse. En fait, tout est entre les mains d'une certaine manière de Dieu et c'est à lui qu'on doit demander directement. Et évidemment, après, il va nous répondre avec des messages et parfois les messages ne sont pas toujours agréables, mais en tout cas, c'est pour qu'on avance vers plus de joie, quoi. Le dernier élément dont je voudrais parler, c'est le fait de vivre des épreuves. Donc comme je vous disais, je suis partie à la mosquée et c'était fou de voir en fait, enfin fou, c'est pas fou, mais de voir des femmes pleurer. Et tu te dis, waouh, en fait, t'es pas la seule à vivre des épreuves. C'est vrai que quand tu vis des épreuves, tu t'auto-centres beaucoup sur toi. Et en fait, quand je suis allée à la mosquée et que j'ai vu toutes ces femmes et certaines jeunes qui pleurent dans les bras l'une de l'autre, voilà, parce qu'elles ont des problèmes, je ne sais pas quels sont leurs problèmes, eh ben, t'as encore plus d'empathie et de compassion pour les autres. Voilà, tu te dis, en fait, ça sert à rien de jalouser les gens, même que tu vois sur les réseaux sociaux et tout. En fait, ces personnes-là, elles vivent également des difficultés, mais on peut toutes, en fait, être les unes à côté des autres, en fait, pour se soutenir. Et en fait, les épreuves, qu'elles soient via le jeûne du Ramadan ou les grandes épreuves de la vie, ce qui va être super important, déjà, c'est de donner un sens à cette épreuve, même si on ne la connaît pas vraiment, mais en tout cas, d'essayer de développer une vision d'après épreuve, bien évidemment, sans bypasser ses émotions. On a le droit de vivre les émotions difficiles et inconfortables. Mais bon, en général, les gens ne s'autorisent pas à les vivre. Mais en tout cas, de développer une vision de là où on veut aller et également d'être entouré des bonnes personnes. Parce qu'en fait, toute épreuve que tu vis, ce qui va être super important, c'est ta foi en Dieu, donc ce que tu penses de Dieu, qui est Dieu pour toi, parce que tout le monde n'a pas la même définition de Dieu dans son inconscient. La deuxième chose, c'est en fait, est-ce que l'épreuve que tu vis, elle a un sens d'une certaine manière dans le chemin que tu es en train de parcourir. Par exemple, si tu montes une entreprise, est-ce que la difficulté avec tes employés ou ta difficulté à faire de l'editing d'une vidéo YouTube, est-ce que ça a un sens dans the bigger picture, dans la grande vision, quoi. Et la troisième chose, ça va être la communauté. Et je vous en parlais dans l'épisode sur les amis, comment mieux choisir ses amis. C'est vrai que si vous avez des gens autour de vous qui sont négatifs, qui n'ont pas d'espoir, pessimistes, qui vous rabaissent, voilà, ce genre de choses, c'est vrai que vous allez avoir beaucoup plus de mal à vivre l'épreuve. Enfin, franchement, moi, enfin, si par exemple, j'avais pas ma famille ou... Enfin, pour vivre le ramadan, c'est beaucoup mieux d'être dans une communauté bénéfique, c'est-à-dire avec des gens qui vivent bien le jeûne, qui veulent faire des activités, qui ne se plaignent pas. Enfin, voilà, ça va être totalement différent de si tu vis un jeûne avec des gens qui se plaignent tout le temps, qui râlent, qui sont négatifs, qui parlent mal de Dieu, qui font vraiment les choses en mode automatique. Et en fait, ça a été vraiment eye-opening pour moi. Ça m'a ouvert les yeux en fait, de me dire que ce qui va être le plus important, c'est les gens avec moi. Ben, je l'avais déjà conscientisé, mais là, je l'ai encore plus. Le fait de me dire que, en fait, il faut absolument que je cultive de fortes amitiés, des gens sur qui je peux compter à fond. Pas juste les amis, la famille également. Pour me sentir forte, pour avoir des épaules en fait, quand je vivrai une épreuve. Parce que vivre une épreuve tout seul, c'est pas facile. Mais bon, Dieu, il donne toujours les ressources nécessaires pour les épreuves, dans tous les cas. Avant de finir cet épisode, j'ai envie de vous proposer un petit exercice. Alors, vraiment, je vous invite à écrire sur votre journal ou où vous voulez sur votre ordinateur, les épreuves que vous êtes en train de vivre actuellement. Et les épreuves, ça peut être des choses énormes, accidents, décès, divorce, ce que vous voulez. Et ça peut être des choses de beaucoup plus petites, c'est-à-dire, enfin petites. Par exemple, vous voulez monter votre projet, vous voulez sortir votre podcast, voilà, une relation, un mariage aussi, c'est une épreuve. En fait, en islam, le mariage, c'est censé ramener la paix et le respect entre deux personnes, l'amour. Mais c'est aussi une épreuve parce que l'autre devient miroir de nous et c'est en fonction de l'autre qu'on va encore plus se nettoyer, se purifier le cœur et évoluer encore plus dans notre foi et devenir de meilleures personnes. En fait, c'est ça un peu le but. Enfin, je connais pas, je suis pas une experte du mariage selon l'islam, mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois. En fait, on se rapproche de Dieu via l'autre. L'autre devient un miroir. Et donc, en fait, notre mariage, enfin, dans notre société moderne, on voit le mariage comme l'amour, toutes les paillettes, tous les trucs positifs, alors qu'en fait, en islam, ce n'est pas omis que le mariage est une épreuve, c'est un challenge, et donc ça peut être aussi votre test si vous êtes dans une relation. Donc vous pouvez le marquer comme une épreuve, et en fait de voir comment vous pouvez mieux vivre cette épreuve. Comment par exemple mettre votre attention sur les choses positives, avoir de la gratitude, mettre en place des activités qui vont nourrir votre projet ou votre mariage plutôt que de vous plaindre que ça ne fonctionne pas, que... Voilà, ce genre de choses. D'apprendre à accepter les phases aussi dans lesquelles votre projet est, ou votre mariage, votre relation. Et également de développer encore plus une connexion à Dieu et de lui demander en fait de vous soulager, de vous soutenir, de vous guider dans cette épreuve que vous vivez. Et ça va vous permettre en fait de voir votre vie d'une autre manière. Et sachez que tout le monde vit des épreuves, mais vous allez en ressortir beaucoup plus grand. C'est la promesse de Dieu. C'est-à-dire que si vous traitez ces petites épreuves comme des tests de Dieu, vous allez en ressortir beaucoup plus grand à la fin, peu importe l'issue, quoi. Si vous arrêtez votre projet ou si vous le continuez. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et j'espère que il vous aura été bénéfique. En tout cas, bravo à toutes les personnes qui ont jeûné pendant ce mois de Ramadan. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de l'Aïd. Et j'espère que vous allez continuer à garder les bonnes habitudes cultivées pendant ce mois béni pour le reste de l'année. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bye! N'hésite pas à venir me raconter ce que tu as pensé de l'épisode du jour. Pour soutenir le podcast, partage-le à une amie ou tu peux également me laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify pour que plus de monde découvre ces épisodes. Je te dis à très vite.